C'est Anne-Laure Choin, étonnamment, qui vous présente le journal. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Des familles qui fouillent dans les charniers récemment découverts à Gaza et y retrouvent la dépouille de leurs proches. C'est le reportage que vous entendrez dès le début de ce journal, alors que Israël semble préparer l'offensive à Rafah.
L'Iran des Mollahs vient de condamner à mort une figure de la résistance, le rappeur Toumaj Salehi.
Et puis en France, retour sur la crise que traverse l'entreprise Duralex et sur le grand tétras des Vosges. Ce sera la fin de ce journal. Quelle sera votre question du jour, Marguerite Caton?
Nous parlerons du Centre Pompidou. A-t-on encore les moyens du gigantisme culturel?
Réponse à 7h15. Cela ressemble à une offensive qui pourrait avoir lieu bientôt, malgré les mises en garde de la communauté internationale. Israël dit se préparer pour une opération terrestre à Rafah, ce que semblent confirmer des responsables égyptiens qui affirment que l'État hébreu dispose en ce moment des abris pour évacuer les Palestiniens de Rafah vers Khan Younes, toute proche. C'est dans cette ville de Khan Younes, autour de l'hôpital Al-Nasser, que l'on a découvert il y a quelques jours une fosse commune, laissant penser qu'il pourrait y avoir eu sur ce site un massacre de civils palestiniens. 340 corps ont été exhumés pour l'instant. Au total, deux charniers ont été découverts à Gaza. La Maison-Blanche dit attendre des réponses de la part d'Israël à ce sujet et l'ONU réclame une enquête indépendante. Sur place, des Gazaouis cherchent toujours si dans ces charniers se trouvent leurs proches. Parfois, c'est le cas. Écoutez ce reportage de Thibault Lefebvre réalisé près de l'hôpital de Khan Younes avec Youssef Kilani. C'est un nom d'emprunt.
Une femme est assise au sol. Devant elle, deux corps dans des sacs mortuaires blancs recouverts de fleurs. Elle porte un masque chirurgical et parle au téléphone à son père.
On a retrouvé la dépouille de mon frère Mounir. Que Dieu ait pitié de son âme. Viens, papa, et apporte du parfum.
La maman, éreintée, les yeux cernés, interrompt la conversation.
Je l'ai reconnu. C'est le cœur d'une mère qui parle. Oui, prends le parfum le plus beau et le plus cher que tu aies. Et viens avec les garçons. On ne veut pas mettre son corps dans la voiture.
Ces vidéos ont été prises par Youssef. C'est un prénom d'emprunt.
C'était horrible, quoi. On a vu les cadavres et tout. L'odeur, j'ai trop vomi.
La dépouille de Mounir a été retrouvée au milieu de plus de 300 cadavres autour de l'hôpital Al-Nasser de Khan Younes. Depuis le retrait des troupes israéliennes de la ville le 7 avril, des dizaines de familles cherchent les corps de leurs proches. Le docteur Ahmed Moghrabi était dans l'établissement jusqu'au 15 février.
Pendant deux ou trois semaines, l'hôpital était en état de siège et les gens ont enterré les corps à l'intérieur de l'hôpital.
Les familles de victimes accusent aujourd'hui l'armée israélienne d'avoir déterré les cadavres pour effectuer des prélèvements ADN, puis de les avoir jetés dans des fosses communes. Dans un communiqué, l'état-major reconnaît avoir cherché des otages parmi les dépouilles, mais nie avoir déplacé les corps. Selon le Hamas, des cadavres ont été retrouvés pieds et mains liés. L'état hébreu dément.
Thibault Lefebvre, le Hamas qui a diffusé de son côté une vidéo hier montrant l'un des otages les plus connus enlevés lors de l'attaque du 7 octobre. Vidéo qui a provoqué la fureur de dizaines de manifestants israéliens descendus spontanément dans la rue hier. Son visage aussi est connu de nombreux Iraniens. Toumaj Salehi est un rappeur célèbre pour sa musique et surtout son engagement contre le régime des Mollahs qui vient de le condamner à mort. Un tribunal révolutionnaire d'Ispahan, dans le centre de l'Iran, a en effet prononcé la peine capitale à son encontre. Signe que la répression du régime est toujours à l'œuvre et toujours sanglante, il élimine celui qui était devenu l'un des symboles les plus visibles de la résistance iranienne. Le récit d'Étienne Monin.
Malgré les risques encourus, dans ce titre qui date d'avant la révolution de 2022, Toumaj Salehi critique ouvertement le régime et l'absence de justice. À 33 ans, cette star du rap en Iran est incarcérée trois fois, arrêtée en décembre dernier pour avoir dénoncé l'usage de la torture en détention dans une vidéo.
J'ai été torturé. Après cette arrestation, ils m'ont cassé la main et frappé le visage. J'ai essayé de me protéger avec les mains, ils m'ont brisé les doigts.
Issu d'une famille de résistants, le rappeur aux 2 millions de followers sur Instagram est un combattant. Il défend les valeurs de liberté et refuse de se taire, explique Lila Pagzar, activiste de la diaspora en France.
C'est vraiment le symbole de la résistance. En fait, ces textes si on veut les comparer à quelque chose, ça relève plus du pamphlet. Vraiment, il y a quelque chose de philosophique, d'extrêmement direct. Il dénonce la corruption du régime, il dénonce la soif de sang du régime. Il va donner aux Iraniens de l'intérieur la possibilité de croire qu'ils peuvent résister en étant en Iran, la possibilité de croire que la liberté peut arriver.
Toumadj Salehi a soutenu la révolution de 2022. Ça n'est pas le premier artiste condamné à mort. Les militants pensent qu'avec lui, c'est l'espoir que le régime veut faire disparaître.
Un séisme politique en Espagne. Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, a annoncé qu'il pourrait démissionner. Il annoncera sa décision définitive lundi. Le socialiste réagit à l'ouverture d'une enquête pour trafic d'influence et corruption contre son épouse. Les précisions depuis Madrid de Marie-Hélène Ballestero.
C'est la stupeur en Espagne. Le chef de l'exécutif a pris tout le monde de court, y compris au sein du gouvernement et de sa formation, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol. C'est vrai que Pedro Sanchez est habitué aux coups de bluff et aux situations désespérées auxquelles il a toujours fait face grâce à une grande capacité de résistance, mais cette fois, il semble avoir atteint un point de non-retour. La plainte déposée par le pseudo-syndicat d'extrême droite Manos Limpias contre son épouse, Begoña Gómez, semble être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sanchez se dit victime d'une opération de harcèlement pour tenter de l'abattre en attaquant son épouse. Mais que va-t-il se passer désormais ? En Espagne, les avis sont partagés. À droite, on dénonce l'attitude narcissique de Sanchez qui joue la victime en publiant cette lettre pour mobiliser son électorat avant les prochaines élections catalanes et européennes. Mais à gauche, on retient son souffle. Sanchez doit annoncer lundi prochain sa décision. Va-t-il démissionner ? Pour l'heure, il suspend ses activités pendant quelques jours, le temps de réfléchir et de voir si le jeu en vaut la chandelle. Les membres de son parti ont commencé à se mobiliser et espèrent le convaincre de résister une fois de plus.
Et puis Venise devient aujourd'hui la première ville au monde à faire payer l'entrée dans ses murs en même temps qu'elle met en place un plafond de visiteurs. Une façon de lutter contre le surtourisme qui a beaucoup dégradé la ville et ses canaux. Tout visiteur ne passant pas la nuit dans la ville devra réserver sa visite en ligne et payer 5 €. On y reviendra dans le journal de 8h.
7h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Lorchouin. Comment va-t-on faire pour voir son âge au fond du verre puisque le verrier Duralex a été placé hier en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Orléans.
Qui lui a donné 6 mois pour trouver un repreneur. C'est ce que demandait Duralex, qui emploie 230 personnes dans son usine de La Chapelle-Saint-Mémin, dans le Loiret. Elle est au bord de la liquidation judiciaire suite à des difficultés en série que nous détaille Camille Magnard.
Les difficultés, elles ont commencé pour Duralex en 2022, année où la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine. L'Europe a coupé en grande partie les robinets du gaz russe, les prix se sont envolés. Et quand on fabrique du verre dans de gigantesques fours alimentés au gaz, eh bien la facture explose. Duralex a dû prendre la décision d'arrêter son four pendant 5 mois et n'a été sauvé à l'époque que par un prêt de 15 millions d'euros accordé par l'État français. 2023 devait être l'année de la reprise, sauf que là, c'est l'inflation qui s'en est mêlée avec une consommation des ménages en berne, une concurrence internationale exacerbée. Bref, les ventes n'ont pas redécollé et Duralex a accumulé des pertes records, auxquelles est encore venu s'ajouter, courant mars, une décision de justice qui oblige la société à débourser 840 000 euros de droits à polluer car elle a dépassé les seuils d'émission de gaz à effet de serre qui lui étaient autorisés. Voilà donc ce qui a conduit Duralex à demander, comme il y a 3 ans, ce redressement judiciaire qui lui donne 6 mois pour tenter de trouver un repreneur en France. L'État se dit prêt à accompagner un projet solide s'il se présente et l'on sent bien qu'il y a là un enjeu politique à sauver cette marque très populaire et cette usine du Loiret qui d'ici là continue à tourner normalement avec 230 salariés forcément inquiets.
Le préavis de grève dans les aéroports français a été levé hier par le principal syndicat de contrôleurs aériens, le SNCTA. Mais le trafic devrait tout de même être très perturbé aujourd'hui. Beaucoup de vols ont été annulés. 3 vols sur 4 supprimés par exemple au départ et à l'arrivée de Paris-Orly. Plus de la moitié à Roissy-Charles-de-Gaulle, 65% à Marseille-Provence. Au cœur des discussions entre l'État et les syndicats de contrôleurs aériens, la refonte du contrôle aérien, justement, chantier lancé il y a 15 mois et pour lequel les organisations syndicales réclament des compensations. Les précisions de Marie Viennot.
Quand le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens a levé son préavis de grève hier, le ministre des Transports, Patrice Vergriete, s'est réjoui que l'accord trouvé avec la Direction générale de l'aviation civile apporte sécurité et moins de retard aux usagers, sans rien coûter aux contribuables. À ce stade, aucun des négociateurs ne communique sur le protocole qui a permis de satisfaire le SNCTA, qui représente 60% des contrôleurs aériens. On sait qu'il réclamait 25% d'augmentation des rémunérations étalées sur 5 ans ainsi que des mesures statutaires. Alors combien ont-ils obtenu ? Moins que ce qu'ils demandaient, a voulu rassurer le ministre des Transports, ce qui ne rassure pas Laurent Timsit, délégué général de la Fédération nationale de l'aviation marchande.
Effectivement, cet argent n'est pas l'argent des impôts, mais l'argent des redevances payées par les compagnies aériennes. Le passager, in fine, et les compagnies aériennes ont bien des coûts plus importants si les salaires des contrôleurs aériens augmentent.
Mais les questions indemnitaires ne sont pas les seules que posent les syndicats qui ont déposé un préavis pour aujourd'hui. Pour l'USAC-CGT, la priorité, c'est plutôt de réduire les contraintes imposées aux agents par le projet de refonte du contrôle aérien. Lancé il y a 18 mois et toujours soutenu par le syndicat majoritaire, cette refonte a pour but d'augmenter la productivité et de réduire les retards. Elle est toujours en cours de négociation et prévoit notamment de moderniser les équipements, de réorganiser le travail des contrôleurs qui seraient regroupés dans un nombre réduit de tours de contrôle.
Emmanuel Macron sera à la Sorbonne ce matin à 11h pour un deuxième grand discours sur l'Europe, 7 ans après le premier. Un rendez-vous très attendu par la majorité en grande difficulté électorale avant les élections européennes. La Cour de cassation a définitivement confirmé la culpabilité de François Fillon pour les emplois fictifs de son épouse hier. L'ancien Premier ministre avait été condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont un en ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité, je vais y arriver. La Cour a tout de même décidé que les peines prononcées devaient être réexaminées. Enfin, c'est un gros oiseau aux allures de coq, vert, bleu et rouge, amateur de myrtilles et de froid, qui a disparu des Vosges. Le grand tétras est l'objet d'une bataille judiciaire ce matin. Le tribunal administratif de Nancy examine en référé un projet de réintroduction du gallinacé dans le massif des Vosges. Un projet pourtant combattu par 5 associations environnementales, ce sont elles qui ont saisi la justice. Ça peut sembler paradoxal, mais elles estiment que réintroduire le grand tétras dans un environnement qui l'a fait disparaître serait voué à l'échec, ce que nous explique Nia Preto.
Le projet est lancé. Les équipes sont déjà en Norvège pour capturer les grands tétras afin de les réintroduire dans le massif des Vosges. La préfecture et le parc naturel régional veulent ainsi éviter l'extinction totale de l'espèce, puis à long terme la pérenniser. Mais pour le président de l'association SOS Massif des Vosges, il s'agit plutôt d'une opération de communication puisque ces oiseaux ont déjà disparu de la région. Il est alors illusoire de penser pouvoir les réintroduire dans un habitat modifié par le développement du tourisme et le réchauffement climatique. Les 5 associations dont SOS Massif des Vosges, Vosges Nature Environnement et Oiseaux Nature ne sont pas les seules à désapprouver ce projet. Il a également été rejeté par 2 conseils scientifiques dont le Conseil National de la Protection de la Nature et une consultation publique organisée par la préfecture a débouché sur 80% d'avis défavorables. Une demande d'arrêt des captures a été faite auprès des autorités norvégiennes, en plus des 2 recours de suspension déposés devant le tribunal administratif de Nancy. Le programme débute pendant la période de reproduction des grands tétras. Il est alors nécessaire pour les associations d'empêcher l'opération au plus vite.
Le temps de ce jeudi, nuages et pluie sur une grosse partie centrale du pays, soleil sur le sud-est, temps mitigé. Ailleurs, les températures basses encore ce matin, entre moins 2 et 7 degrés, comptées de 9 à 16 cet après-midi. C'est la fin de ce journal et la suite des matins de Culture avec vous, Guillaume Hermé.
Et avec nos remerciements, Anne-Laure Chouin, la question du jour de Marguerite Caton dans quelques secondes. Centre Pompidou, a-t-on encore les moyens du gigantisme culturel ?